Hébreux chapitre 12. Alors, à part des exemples que je vais apporter ce matin, dans les prières et dans la présidence que notre frère a apportée, eh bien, vous allez réentendre la même chose. C'est à peu près ce que je vais répéter. On ira chercher quelques illustrations. Hébreux chapitre 12. Nous donc, les deux premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et la même à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Alors, au 11e chapitre, eh bien, si on regarde au 11e chapitre rapidement, l'auteur nous a donné de nombreux exemples sur la nature et la puissance de la foi. À partir d'Abel, il cite plusieurs exemples parmi les patriarches, les prophètes et les croyants du peuple, en fait, les croyants parmi le peuple juif. Et à partir de ces exemples, il va mentionner à ceux à qui il adresse cette épître, que ces gens ont laissé un témoignage de la course chrétienne à laquelle ils ont participé. Et il présume ici que les croyants qui ont vécu dans l'Ancien Testament sont, à travers leur témoignage, d'une grande aide aux croyants du Nouveau Testament dans la vie, pour notre vie chrétienne, Voilà pourquoi il écrit au premier verset du chapitre 12 à ceux à qui cette lettre s'adresse: c'est pourquoi nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière, ou la course, si vous préférez, qui nous est offerte. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Débarrassons-nous de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument la course qui nous est proposée. Et dans le deuxième verset, eh bien, il dit, ayant les regards sur Jésus, je me suis aperçu ce matin qu'on a dit, gardons nos regards fixés sur Jésus à plusieurs reprises. Et ici, il dit, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il n'a pas tenu compte de la honte attachée à une telle mort, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et la course et la carrière dont il parle ici, c'est évidemment finalement la vie chrétienne que chacun est appelé à mener. Et la nuée de témoins, ce sont ceux qui croient en Jésus, et le juge qui discerne la couronne, eh bien, c'est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons ton aide ce matin, afin que tu puisses nous diriger dans ta parole, que tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit, afin qu'ici, ce matin, chaque personne présente puisse recevoir la portion, Seigneur, que tu as en réserve pour chacun de nous. Seigneur, c'est vrai que tu nous demandes de porter nos regards sur toi, tu nous demandes de t'imiter. Et Seigneur, nous voulons vraiment, c'est notre souhait ce matin, malgré nos manquements, Seigneur, malgré nos faiblesses, nous voulons vraiment garder nos yeux fixés sur toi, dont dépend notre foi, du commencement à la fin, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Bénis toute personne ici présente ce matin. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, le contexte dans lequel nous retrouvons ces paroles démontre clairement que l'idée principale de l'auteur ici consistait à examiner attentivement la personne de Jésus et d'en faire notre modèle à suivre. Il dit « ayant les regards fixés ». Le grec, il est écrit ici « ayant les regards fixés sur Jésus », mais le grec, c'est vraiment les deux yeux fixés sur la personne de Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre foi, et il nous dit ici qu'il la rend parfaite. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à cette mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser chacun ce matin, pourquoi le Seigneur, à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous demande d'avoir toujours les regards fixés sur Jésus? Il y a une raison de garder toujours nos regards fixés sur Jésus, parce que s'ils ne sont pas fixés sur Jésus, ils sont fixés sur autre chose. Et j'espère que ce matin, eh bien, vos regards sont fixés sur la personne de Jésus-Christ. L'auteur le dit ici, c'est pas moi qui le dis, dont votre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Et le but de notre foi, on le sait, c'est le salut de nos âmes. Il nous dit aussi, l'auteur dans la même épître. Le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes. Ainsi donc, l'idée principale de l'auteur, lorsqu'il écrit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, c'est que nous prenions en considération et que nous examinions attentivement le caractère et la personne de Jésus-Christ et l'attitude qu'il a adoptée lorsqu'il est passé à travers toutes les épreuves qu'il a subies. Et je pense que c'est réconfortant pour nous. Notre frère, tantôt, dans sa présidence, a dit que personne qui est épargné par les épreuves de la vie, il n'y a personne qui est épargné par la maladie dans la vie. Nous sommes toujours dans un corps mortel. Mais le modèle à suivre dans nos réactions face à nos réactions, eh bien, c'est la personne de Jésus-Christ. Pas seulement sur sa mort à la croix, mais aussi sur sa résurrection. S'il était mort, il ne pourrait rien faire dans nos vies, mais il est ressuscité, il est vivant, et il peut agir dans chacune des vies de ceux qui lui appartiennent. Combien de personnes ne regardent pas à Jésus dans le sens où elles ne prennent pas le temps d'examiner attentivement sa personne en ne faisant pas de lui le but ultime de leur étude et de leur recherche? Elles sont prêtes à passer des heures à étudier, à approfondir leurs connaissances sur toutes sortes d'autres sujets et en à maîtriser parfaitement le contenu, mais en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, elles se contentent d'en connaître seulement les grandes lignes. Et ce qui serait intéressant ce matin, c'est de vous distribuer une feuille et de vous poser la question, je pense que c'est la question qu'on a posée au groupe de jeunes hier, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Celui qui est mort uniquement pour vous sauver? Celui qui vous a sauvé pour que vous puissiez avoir la vie éternelle? Combien de lignes on pourrait remplir pour répondre qui est Jésus pour moi? Voilà pourquoi l'auteur ici va mettre l'emphase sur l'importance d'étudier le caractère, la personne de Jésus-Christ, ses réactions face à tout ce qu'il a vécu, pour qu'on puisse vraiment être imprégné de l'esprit de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, comme je le dis, préfèrent examiner autre chose que la personne de Jésus-Christ. Ils ne prennent pas le temps d'examiner attentivement son amour, sa nature et sa bienveillance. Et lorsque nous parlons de bienveillance, nous voulons dire que c'est quelqu'un qui a choisi comme but suprême de sa vie de vouloir le bien des autres et de tout faire pour qu'il soit rayonnant de joie. Ça, c'est la bienveillance de Dieu. Et quand on dit que Dieu est amour, si Dieu n'était pas bienveillant, eh bien, il ne pourrait pas nous aimer comme il nous aime. C'est vraiment la bienveillance de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu qui pousse à nous aimer, c'est la bienveillance de Dieu qui nous pousse à avoir la description de tous ses attributs dans la parole de Dieu, y compris sa sainteté. On oublie souvent, on parle de l'amour de Dieu, mais l'amour, la sainteté de Dieu, elle est comprise dans l'amour de Dieu. Et le psalmiste avait compris ce principe, il dit dans le psaume 34:6 qu'on a vu la semaine passée, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et on va voir un petit peu pourquoi dans le message de ce matin. L'erreur que certains font, c'est qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier l'étendue de la personne de Jésus-Christ, ses capacités et ses pouvoirs qui sont infinis. S'ils ne prennent pas le temps d'examiner attentivement sa personne, ils ne peuvent pas saisir qu'il ne change pas, qu'il est digne de confiance et qu'il ne réagit pas en fonction de la couleur du temps et qu'il n'agit pas en fonction d'une émotion qu'il ressent et qui disparaît par la suite. Et heureusement qu'on a un Dieu qui déprime pas s'il y a des nuages, s'il pleut, s'il neige, s'il vente. Heureusement que ce Dieu-là, eh bien, ne fonctionne pas en fonction de la couleur du temps. Et heureusement aussi qu'il fonctionne pas en fonction de ses émotions, quoi. Parce qu'une journée, il se lève, il est high, le lendemain, il est bas. Eh bien, on ne saurait pas à quoi s'attendre de ce Dieu-là, quoi. Heureusement que Dieu est dirigé par autre chose. C'est ça qui est merveilleux pour nous, quoi. C'est pour ça qu'on peut dire que sa fidélité, elle est éternelle. Sa bonté, elle est éternelle. Sa miséricorde, elle est éternelle. Et ainsi de suite. Lorsqu'il dit « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement », cela signifie qu'il est toujours disposé à nous accorder toutes les bénédictions que nous sommes en mesure de recevoir de lui. Et frères et sœurs, les bénédictions, toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, c'est une grâce. À chaque fois, c'est une grâce. Dieu ne nous doit rien, Dieu ne vous doit rien, Dieu ne me doit rien. C'est uniquement par grâce qu'il nous accorde ces bénédictions. Le salut est par grâce, la santé est par grâce. Vous avez une maison, c'est par grâce. Vous avez un travail, c'est par grâce. Vous n'avez pas de travail, c'est par grâce. Vous êtes amen à ça? J'arrivais à la fin de mois très, très juste, c'est par grâce. Vous êtes malade, c'est aussi une grâce que Dieu vous accorde. Les chrétiens de l'Église primitive, lorsqu'ils ont servi de torche dans l'arène à Rome, c'est une grâce que Dieu leur a fait. Pourquoi? Parce que ça a changé complètement l'Empire de Rome après. Complètement. Ils n'ont pas souffert. Les gens entendaient les chrétiens en train de brûler, recouverts de bitume. Ils louaient le Seigneur. Ils étaient déjà entrés dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ils louaient le Seigneur. À vue humaine, si on marche par les émotions, on dit c'est épouvantable, les Romains, c'était méchant. Mais on oublie une chose, Dieu est en contrôle de toutes choses. Et dans tout ce que nous vivons, lorsque nous avons la certitude que c'est de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Amen. Beaucoup de gens semblent vouloir limiter le pouvoir de Jésus. Ils se disent en eux-mêmes, comment peut-il faire ceci, comment peut-il faire cela, pour finalement en arriver à la conclusion qu'il ne peut rien faire pour eux, à moins que ce soit eux qui fassent tout par eux-mêmes. Il est très fréquent d'entendre des gens parler sur la capacité de Dieu à ne pas faire ceci ou à ne pas faire cela, au lieu de supposer plutôt que rien n'est trop difficile pour lui. Nous entendons beaucoup parler des lois naturelles, que si une personne pêche, elle doit en subir les conséquences, et que les désastres naturels qui surviennent, on ne peut les éviter, et qu'elles ont des conséquences terribles sur la vie des gens. Par conséquent, ces gens-là en arrivent à la conclusion que Dieu ne peut pas guérir nos maladies, que ce soit dans notre corps ou dans notre esprit, qu'il ne peut pas nous sanctifier à moins que nous consentions, que nous y consentions, comme si notre consentement était la chose même qu'il est demandé pour garantir qu'il interviendrait dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de notre consentement pour intervenir dans vos vies. Je vais vous donner deux exemples. Matthieu, chapitre 5, verset 45. Jésus dit, « Ne fait-il pas lever son soleil sur les méchants et sur les bons? » Les méchants ne connaissent pas Dieu. Les méchants, ils font le contraire de la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu fait lever. Il n'attend pas que les méchants lui demandent de faire lever son soleil sur eux. Dieu fait lever son soleil. « Et ne fait-il pas pleuvoir sur les justes comme sur les injustes? » Les injustes ont besoin que la terre soit arrosée pour pouvoir produire des fruits, pour pouvoir produire des légumes. Les injustes, ils ne connaissent pas Dieu. Les injustes, ils ne lui donnent pas son consentement pour qu'il pleuve. Et pourtant, Dieu, dans sa bonté, déverse la pluie pour que les injustes puissent aussi manger comme les justes peuvent manger. Beaucoup de gens semblent décidés à mesurer la grandeur de leur foi en fonction des doutes qu'ils ont concernant ce que Jésus est capable de faire. Mais plusieurs qui reconnaissent son pouvoir ne reconnaissent pas qu'il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tournez avec moi dans Marc chapitre 5, verset 21. Première illustration ce matin. Marc chapitre 5, verset, à partir du verset 21. C'est le passage où il y a deux guérisons miraculeuses. Bon, on n'entrera pas dans tous les petits détails ce matin, puisqu'on a déjà étudié en profondeur ce passage-là. Mais on nous dit ici qu'il y a un chef de la synagogue qui s'appelle Jairus, qui a une fille âgée de 12 ans et qui est en train de mourir. Et là, bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver Jésus pour qu'il puisse lui sauver la vie. Et un peu plus loin, eh bien, une femme, verset 26, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Si vous regardez le texte grec, on nous dit que tout l'argent qu'elle avait, finalement, elle avait placé sa confiance dans les médecins, et elle fait un peu comme les gens font aujourd'hui. Tu vas voir un médecin, il satisfait pas finalement, son diagnostic te satisfait pas, t'en fais un autre, tu suis des traitements pendant un certain temps, ça fonctionne pas, tu vas en voir un autre, et ainsi de suite. Et elle, ici, le texte nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. C'est pas ce qu'on s'attend des médecins, n'est-ce pas? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Frères et sœurs, si vous lisez le texte grec ici, cette femme, je viens de lire un passage qui nous donne au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons. Cette femme, elle vient rencontrer Jésus. Ça fait 12 ans qu'elle subit des pertes, qu'elle est en hémorragie. Ça vous donne une idée de l'extrême faiblesse de cette femme, quoi. Et là, elle vient trouver Jésus pour être guérie physiquement. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et Jésus va lui donner au-delà de ce qu'elle demande. Jésus va aussi faire une guérison spirituelle dans sa vie. C'est le seul passage des évangiles où Jésus va appeler quelqu'un « ma fille ». Il parle d'une relation filiale ici. Et le texte grec nous montre que non seulement elle a été guérie physiquement, mais Dieu va lui donner au-delà de ce qu'elle a demandé, il va aussi la guérir spirituellement. Elle va passer des ténèbres à la lumière, elle va devenir un enfant de Dieu. Et là, il peut lui dire, « Ma fille, ta foi t'a guéri. » Frères et sœurs, dans le passage de Marc ici, de la femme qui est victime d'hémorragie, il y a trois acteurs. Il y a Jésus, il y a la femme et il y a la foule. Je suis persuadé que cette journée-là, il n'y avait pas juste la femme, il n'y avait pas juste Jairus qui avait des problèmes. Il n'y a pas juste la dame, la femme qui avait des pertes d'hémorragie, qui aurait dû être guérie, qui aurait dû être sauvée. Il y a trois personnages, Jésus, qui va accomplir le miracle, la femme qui va être guérie, mais aussi la foule. Et la foule, vous savez, elle peut ressembler à des gens qui viennent à l'église à chaque dimanche. La foule ici, elle ne vient pas pour être guérie. Elle ne vient pas pour être sauvée par Jésus-Christ. Elle vient comme spectateur. La femme, elle va participer. Non seulement elle se mélange à la foule, non seulement elle se fraye un chemin, mais elle ne vient pas pour voir Jésus guérir les autres, elle vient pour être guérie par Jésus-Christ parce qu'elle a la foi que lui seul peut la guérir. Et la seule façon, elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Lorsqu'on vient à l'église, c'est la même chose, on peut venir en tant que spectateur et entendre et voir Jésus accomplir des choses extraordinaires dans la vie des gens. Ou on peut entrer dans une église et dire, moi aujourd'hui, je ne veux pas juste me contenter de chanter des chants, je ne veux pas juste me contenter de louer le Seigneur, mais moi aussi, je veux que Jésus-Christ fasse un miracle dans la vie. Et le plus grand miracle qu'il peut faire, eh bien, encore une fois, c'est de guérir des gens spirituellement, c'est-à-dire d'amener des gens de passer de la mort à la vie, de permettre à des gens de naître de nouveau. Les gens peuvent rentrer comme ils sont entrés, et peuvent sortir comme ils sont entrés, sans avoir rien reçu parce qu'ils se sont limités à être des spectateurs de l'Évangile. Et pourtant, le cœur de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, c'est de faire en sorte que nous puissions devenir, non, passer de spectateurs à participants dans le royaume de Dieu. Dieu t'emmène à ça? Dieu n'a pas de favoritisme, pardon. Alors, c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Et on a besoin d'étudier attentivement l'histoire de Jésus, les promesses de Jésus, le caractère même de Jésus, afin d'être pleinement rassuré qu'il veut manifester jour après jour dans nos vies la même bonté. Alors, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de faire de Jésus l'objet d'une étude approfondie de sa personne. Et lorsqu'on parle des évangiles, et là qu'on se dit, moi, je vais lire les Écritures, je vais méditer les Écritures, je vais les étudier uniquement pour découvrir quelle est la personne de Jésus-Christ, quel est son caractère, quelles sont les promesses qu'il nous donne. Eh bien, à partir de l'Évangile, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, vous allez avoir un livre aussi épais que la Bible. Vous allez avoir écrit un livre aussi épais que la Bible, juste à décortiquer la personne de Jésus-Christ, juste à décortiquer son caractère, et juste à décortiquer finalement toutes les promesses qui sont contenues dans sa parole. Extraordinaire la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on les étudie, il n'y a pas de fin pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir l'étudier. Un grand serviteur de Dieu qui avait passé 60 ans à méditer les Écritures jour après jour, plusieurs heures par jour, a dit en mourant, je n'ai fait qu'effleurer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est riche. La parole de Dieu, c'est pas un roman, c'est le vécu. C'est le vécu d'une personne, la personne de Jésus-Christ, particulièrement dans le Nouveau Testament, la personne de Jésus-Christ, qui nous rappelle qu'il a des promesses extraordinaires pour tous ceux qui osent s'avancer et donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de faire de Jésus l'objet d'une étude approfondie de sa personne, Nous avons besoin de prendre la Bible, la méditer, pour découvrir ce que nous pouvons nous attendre de lui. Nous devons examiner ses promesses, leur nature et leur étendue. Nous devons examiner sa sincérité et ses attributs, c'est-à-dire ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Et ainsi nous armer contre les mensonges du tentateur. C'est commettre une grave erreur que de prendre du temps à étudier plus en profondeur toute autre chose que de prendre si peu de temps pour Jésus-Christ. Dites amen à ça. Et c'est un combat spirituel, frères et sœurs. C'est un combat spirituel. On est bombardé par toutes sortes de livres qui veulent prendre la place que la personne de Jésus-Christ doit occuper dans nos vies. Et si on porte nos regards dans ces livres, dans toute cette philosophie vaine qui vient du monde, eh bien, nos yeux ne sont pas centrés sur la personne de Jésus-Christ. On peut parler sur Jésus dans des livres qui sont écrits, mais la parole de Dieu, elle nous parle du Dieu de la parole incarné qui est la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui encore qui a la puissance d'agir dans nos vies. C'est lui encore qui peut transformer nos vies. La grande chose que nous avons besoin de saisir de lui, c'est le connaître personnellement pour pouvoir le comprendre et connaître tout ce que nous pouvons sur lui. Nous avons la paix de l'esprit seulement lorsque nous nous familiarisons avec lui et nous sommes fortifiés seulement lorsque nous connaissons Jésus d'une manière personnelle. Je voudrais que vous puissiez être en mesure d'imprimer cette pensée dans votre cœur ce matin, la nécessité indispensable d'étudier la personne de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Même quand il dort, il est toujours en contrôle de la situation et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Marc, chapitre 4, versets 37 à 39. Le texte nous dit, « Voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte qu'elles se remplissaient déjà d'eau. Et lui, en parlant de Jésus, et lui, j'aime bien le Marc qui reprend, et lui, c'est qui? C'est celui qui dort. Hein? Et lui, Jésus, était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En d'autres mots, Jésus, nous allons mourir, ça ne fait rien. » S'étant réveillé, Jésus menaça le vent. Hein? Il parla sévèrement au vent. Et il dit à la mer, c'est-à-dire à l'eau de la mer, nous dit le texte grec, « Silence, tais-toi! » Et qu'est-ce que le texte nous dit ici? Alors le vent cessa et il eut un grand calme. Les disciples naviguaient sur une mer agitée et ils étaient saisis d'une grande frayeur. Ils se demandaient d'où provenait la paix que Jésus avait. Et frères et sœurs, si vous vivez une relation intime avec Jésus-Christ, les gens vont se demander d'où provient cette paix que vous avez qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Vous pensez que dans la barque, lorsque les apôtres se font balader de droite à gauche, avec les vagues qui menacent de faire chavirer le bateau, la barque. Vous pensez que lui, Jésus, il est au neutre avec un niveau, quoi. Il y a un niveau qui le tient, ça bouge pas. Il est secoué de la même façon que les apôtres. Et pourtant, il est calme. Et les apôtres paniquent. Les apôtres paniquent parce qu'ils pensent que le fait qu'ils soient endormis, Jésus n'est pas en contrôle de la situation. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va dire ici? Il va dire « Silence, tais-toi », alors le vent cessa et il y eut un grand calme. Une étude de la personne de Jésus-Christ, c'est qu'on peut se poser la question « Qui est cet homme pour être capable d'arrêter une tempête? Qui est cet homme pour dire au vent « Calme-toi » et que le vent va se calmer? » Ça, c'est une première question qu'on peut se poser, ça, concernant la personne de Jésus-Christ. Qui est cet homme qui dit même au vent « Tais-toi, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. » Hein, c'est ce que le texte dit, c'est pas moi qui le dis. Hein? Alors le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Les disciples naviguaient sur une mer agitée, ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et encore une fois, je le dis, ils se demandaient d'où provenait la paix que Jésus avait, parce qu'ils portaient leur regard sur ce qu'ils voyaient. Ils portaient leur regard sur ce qu'ils voyaient et non pas sur ce que Jésus-Christ pouvait faire pour eux. Un sauveur endormi, c'est ce qu'ils voyaient et non pas ce qu'il pouvait faire pour eux. Ils n'avaient pas réalisé que même s'ils dormaient, ils étaient toujours en plein contrôle de la situation. Ils avaient pensé qu'ils ne pouvaient pas les aider lorsqu'ils dormaient à l'arrière de la barque, la tête appuyée sur un coussin. Ils ne sont jamais venus vers Jésus en le suppliant de leur venir en aide alors que la situation était critique. Et pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi les apôtres, quand la situation était critique, ne sont pas allés trouver Jésus, lui dire, écoute, sauve-nous? Parce qu'ils pensaient qu'ils périraient avec eux. C'est ce que le texte nous dit, hein? C'est ce que le texte nous dit. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tout ce qu'ils ont pu dire, qui est donc celui, verset 41, chapitre 4, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Eh bien, dans Actes chapitre 4, verset 24, on nous donne la réponse. Actes chapitre 4, verset 24, il est celui qui a créé le vent, la mer, la terre, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Pas extraordinaire, le Créateur qui a créé toutes choses, le Créateur qui tient l'univers dans ses mains, le Créateur qui est Dieu, et on dit que Dieu est esprit, qu'aucun œil humain peut voir. Il décide de se faire voir, de se faire connaître à travers sa créature. Il vient se mettre au même niveau de sa créature. Et pour moi, la plus belle prière qu'on peut trouver dans la Bible entre un croyant et Dieu, c'est la prière d'Abraham avec Dieu dans Genèse chapitre 18. On peut même se poser la question, bon, on va mettre la théologie de côté, mais même Abraham qui fait changer d'idée Dieu, quoi. Alors, c'est difficile à dire devant les calvinistes, quoi, mais si on parle au point de vue théologique, mais même Abraham, quoi, hein? Hey, Seigneur, si tu trouves 50 justes dans la ville, vas-tu l'épargner? Et Dieu dit, ben oui, tu sais bien, Abraham, ben oui. Tu me connais, Abraham, puisque tu me dis que je suis un juste juge. Et là, Abraham, il baisse la coche, hein? 45, Seigneur. Et Dieu dit oui. 40, 30, 20, 10. Et Dieu, là aussi, va lui donner au-delà de ce qu'il a demandé. Parce que sans qu'il trouve 10 personnes, il va quand même épargner ceux qui sont sortis de la ville. Ouais. Et je le dis souvent quand je cite ce passage, si Abraham était descendu à une personne, je suis convaincu que dans sa bonté, Dieu aurait épargné la ville de Sodome et de Gomorrhe. Maintenant, on va revenir dans la théologie. Dieu connaissant toutes choses d'avance, il savait qu'il n'en trouverait pas 10, quoi. Mais ce que je trouve de béni dans cette prière, c'est qu'à partir du moment où Abraham parle de 50, il ne dit pas à Abraham, arrête, Abraham, casse-moi pas les oreilles avec eux. Leurs cris sont montés devant mon trône, j'ai vu tous leurs péchés, je suis descendu pour venir régler le problème, il n'a pas rien dit. Il n'a pas dit, écoute, perds pas ton temps à descendre, à diminuer la coche, je sais déjà, j'en trouverai pas 10. Dieu prend un temps avec son enfant pour écouter sa prière. Dieu prend plaisir à écouter vos prières. C'est pas merveilleux, ça?
Oui.
Dieu prend le temps d'écouter nos prières. Lorsque nous cessons de porter nos regards sur Jésus, nous commençons à nous débattre par nos propres forces et à prendre peur, comme cela est arrivé à Pierre dans Matthieu 14, 30, 33. Souvenez de Pierre, hein? Jésus marche sur l'eau. Il dit, Seigneur, allez, permets-moi aussi de marcher sur l'eau comme toi. Et il va marcher tant et si longtemps qu'il ait ses regards fixés sur Jésus-Christ. Et le texte, lorsqu'on lit le texte, dans Matthieu 14, verset 30 à 33, eh bien, à partir du moment où Pierre remarque qu'il quitte ses yeux sur Jésus, qu'il remarque le vent qui souffle autour de lui, il prend peur et là, il va commencer à s'enfoncer dans l'eau, nous dit le texte. Et il va s'écrier, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus va le tendre la main. Il va le saisir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Comme ta foi est petite. Vous savez pourquoi, même parce que Paul dit de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments, souvent, une des raisons pourquoi Dieu permet des épreuves dans nos vies, c'est pour augmenter la mesure de notre foi. Pour qu'on soit capable de passer à autre chose, à une épreuve peut-être encore plus grande, qui va nous faire grandir dans notre foi. Il dit à Pierre, comme ta foi est petite. Aux apôtres qui vont dire, écoute, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de chasser ce démon? Si vous aviez la foi seulement gros comme un grain de moutarde, vous auriez été capable de le dire. C'était un test, c'était une épreuve pour vous et vous ne l'avez pas passé. Pourquoi? Parce que ça, on chasse ce genre d'esprit-là à travers le jeûne, à travers la prière. Pourquoi as-tu douté, Pierre? Ils montèrent tous les deux dans la barque. Et c'était extraordinaire. Ils montent dans la barque avec Pierre. Et aussitôt, le texte nous dit, aussitôt, le vent tomba. Et alors, les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, ça veut dire, en grec, ça veut dire l'égal de Dieu. Fils de Dieu, c'est pas le Père est là, le Fils est là. Fils de Dieu, en grec, ça veut dire, je suis l'égal de Dieu. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre, dans l'évangile de Jean, c'est une des raisons qui va pousser les pharisiens à vouloir tuer Jésus, à vouloir tuer Jésus à un moment donné à le lapider, parce qu'il est écrit, il a voulu se faire l'égal de Dieu en disant ce qu'il vient de dire. Puis on n'a pas n'importe qui comme sauveur, on a Dieu. Dieu fait homme qui s'est sacrifié pour chacun de nous. Encore une fois, certains ne prennent pas le temps d'examiner attentivement le pouvoir qu'il possède, un pouvoir infini, et que tout ce qu'il a promis de faire, il le fera, parce qu'il savait lui-même que rien n'était impossible à Dieu, que rien n'est impossible à celui qui croit. Matthieu chapitre 17, verset 20. Ah, c'est la prière et le jeûne, là, l'esprit que je viens de parler. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parce que ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que quand on reçoit la foi, quand on a la foi que Dieu nous demande d'avoir, c'est une foi qui est différente de celle de Jésus? C'est la même foi, hein? Et si vous vous arrêtez à l'idée qu'on a la même foi, à cette vérité que c'est la même foi qu'on a, que Jésus avait, eh bien, on comprend pourquoi Jésus dit que celui qui croit en lui fera encore de plus grandes choses que lui. Parce qu'en plus, on a son esprit qui habite en nous. Mais cette foi, c'est pas Jésus avait une foi et les croyants ont une autre foi. La foi qu'on reçoit de Jésus, c'est la foi qu'il avait. Maintenant, la différence, c'est la mesure de foi qu'on a par rapport à Jésus-Christ. Et c'est pour ça, ici, dans le texte, qu'il va leur dire, écoutez, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, gros comme un grain de moutarde, par rapport à lui, vous diriez à cette montagne, « Hey, va te jeter dans la mer, elle se jetterait dans la mer. » Le Seigneur n'est pas là pour qu'on l'éprouve et qu'on commence à lancer les montagnes et les collines dans la mer. C'est une image, bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est que rien ne vous serait impossible. Si vous êtes capable de déraciner par la foi une montagne, de la place où elle se trouve, il n'y a rien qui vous est impossible. Et c'est ce que Jésus leur dit ici. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4, verset 21. Et une des promesses qu'il nous a faites, c'est de donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Frères et sœurs, chaque chrétien doit se rappeler qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Marc chapitre 2, verset 7 à 10, « Qui peut pardonner les péchés? » Les prêtres disent « Dieu seul, il a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché qu'il a dit parce qu'il est le Dieu fait homme. » J'ai le pouvoir de pardonner les péchés. C'est extraordinaire, ça, non? Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et il viendra un moment où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Jean chapitre 5, verset 6 à 29. Jean chapitre 10. Personne ne lui prend sa vie, mais il la donne de sa propre volonté. Il a le pouvoir de la donner. Il a le pouvoir de la recevoir de nouveau, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais, dit Jésus. Amen. Frères et sœurs, quand on fait ici un culte de reconnaissance au Seigneur, parce qu'on a un frère et une sœur qui ont été promus à la gloire de Dieu, on n'est pas en train d'enterrer un mort, hein? Moi, j'aime bien l'expression de Paul, s'est endormi. S'est endormi parce que la mort, c'est la fin. Il s'est endormi. Ouais. Son corps s'en va pourrir dans la terre. Il va tomber en poussière. Mais on sait très bien en tant que croyant, c'est la parole qui le dit, l'esprit retourne à son Créateur. Il entre dans la présence de Dieu à partir du moment où Christ a été crucifié. À partir du moment où Christ fait la promesse au malfaiteur, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Christ à sa mort, il descend dans le séjour des morts, il va délivrer tous les croyants de l'Ancien Testament qui attendaient le Sauveur promis. Il les amène dans le cortège de sa victoire, nous dit l'apôtre Paul. Et tous ceux qui meurent après, dans le Nouveau Testament, les croyants du Nouveau Testament, ils vont pas dans le séjour des morts, ils rentrent directement dans le paradis, Christ leur a ouvert les portes, quoi. Apocalypse chapitre 3, voici, j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Ouais. Maintenant, notre frère, notre sœur qui va retourner en poussière, Eh bien, le Seigneur nous dit qu'il a la puissance, la capacité de la ramener à la vie, cette personne-là, parce qu'il est la résurrection et parce qu'il est la vie. Il a reçu ce pouvoir. Il a ce pouvoir parce qu'il est Dieu fait homme. Hey, je suis la résurrection et la vie. Je suis l'auteur de la vie. Je suis la résurrection. Je ramène à la vie les morts. Pas extraordinaire, ça? Hein? Ouais. Pourquoi les gens du monde, ils pleurent quand ils vont au salon funéraire? Pourquoi ils pleurent? Ils n'arrêtent pas de pleurer. Ils n'ont pas cette espérance qu'on a. Ils ont l'impression que c'est la dernière fois, en voyant ce cercueil, qu'ils vont rencontrer la personne. Pour eux, c'est terminé, ils ne la reverront plus jamais. Mais pourquoi nous, si on est triste dans notre cœur, pourquoi on a quand même cette joie qui demeure et que le diable ne peut pas nous voler? Parce qu'on sait qu'on va revoir cette personne-là qui a la même foi que nous. Un jour, Dieu restaurera toutes choses. Dieu ramènera toutes choses. Et on va passer l'éternité dans sa présence. Amen. Romains chapitre 6, verset 9 à 10. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené de la mort à la vie, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort au péché une fois pour toutes. Mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. Il est mort au péché. Chaque chrétien peut témoigner que c'est en ayant porté ses regards sur Jésus qu'il a renouvelé ses forces dans les moments difficiles de sa vie, parce que lorsqu'il a porté ses regards sur Jésus, il a vu son caractère, il a vu ses souffrances, son œuvre, sa parfaite maîtrise dans les situations difficiles et la paix qui transpirait de sa personne. Hey, frères et sœurs, on n'a pas de mauviette hein, comme ça, comme héros. Hein. Hey, on a quelqu'un qui a affronté tout ce qu'on devrait affronter sur la terre, quoi. Quelqu'un qui s'est tenu debout. Pas pour jouer au héros, parce qu'il nous aimait, quoi. Parce qu'il avait choisi qu'on passe l'éternité avec lui, quoi. Pas extraordinaire, ça? Hein? Comme notre frère a dit tantôt, tout le monde, on se trouvait dans la boue, quoi. Hein? Certains, la boue est un petit peu plus épaisse, d'autres un peu moins épaisse, un peu plus claire, mais on se trouvait tous dans la boue. Et le Seigneur nous a sortis de cette boue, quoi. Il nous a lavés par son sang. Et aujourd'hui, eh bien, on peut comparer devant lui blanc, plus blanc que la neige. En mourant, il est mort au péché une fois pour toutes, mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. Lorsque nous portons nos regards sur Jésus, nous sommes nous-mêmes fortifiés dans notre vie chrétienne par la patience qu'il avait, par la capacité qu'il a démontrée à endurer les attaques de l'adversaire et à résister aux moqueries dont il a été l'objet et à l'amour qu'il a manifesté envers les perdus. Frères et sœurs, porter ses regards sur Jésus, c'est aussi imiter Moïse. Hébreux chapitre 11, verset 26. Tournez avec moi. En terminant, porter ses regards sur Jésus, c'est aussi imiter Moïse. 11:26 qui nous dit, il avait les yeux fixés sur la récompense future. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez qu'il y a une récompense qui vous attend dans les cieux? Et ce n'est pas un sac d'argent. C'est la vie éternelle. Il y aura deux résurrections à la fin des temps, résurrection des justes, résurrection des injustes. Et vous allez participer à la résurrection des justes. Vous allez recevoir la vie éternelle. Pour régner, pas pour vivre, pour régner dans le royaume que Dieu est en train de nous préparer sur terre. Magnifique, ça. Hébreux chapitre 11, verset 27. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Vous vous rappelez ce que je vous ai parlé d'Élisée la semaine passée? Élisée voyait avec les yeux humains. Son serviteur voyait avec ses yeux humains. Élisée voyait avec ses yeux de la foi. Il était entouré par l'armée syrienne qui voulait le prendre. Le serviteur, il paniquait. Et Élisée disait, écoute, tu vois pas? Tu vois pas l'armée céleste qui est là autour? Tu vois pas, moi, je le vois avec les yeux de la foi. Et on n'est pas tout seul. Dieu ne nous laissera jamais tout seul. Dieu ne nous abandonnera jamais. Et ici, dans Hébreux chapitre 11, verset 27, on nous dit pourquoi Moïse, on nous donne les raisons pourquoi Moïse a tenu ferme dans sa foi. C'était comme s'il voyait le Dieu invisible. Voilà pourquoi nous ne perdons jamais courage. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Même si notre être matériel se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. Car, Paul dit, nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure éternellement. Ouais. Détourner nos regards sur Jésus-Christ, c'est tourner nos regards sur les choses qui sont appelées à périr un jour. Et nous, on sait en tant que croyants, en lisant les Écritures, que tout ce que nous voyons est appelé à périr, puisque Dieu dit qu'il va tout détruire par le feu. Tout. Pour restaurer toute chose, créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, eh bien, vont retrouver un corps glorifié, et ils vont pouvoir habiter sur cette nouvelle terre avec Dieu, qui va éclairer dans la nouvelle Jérusalem par sa gloire, qui va éclairer cette nouvelle Jérusalem. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de patience afin d'accomplir ce que Dieu veut et d'obtenir ce qu'il promet. En effet, comme le déclare l'Écriture, en court un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Frères et sœurs, j'espère que votre aspiration, c'est de porter vos regards sur Jésus-Christ. C'est d'imiter celui qui nous a sauvés. C'est aussi entrer dans ses promesses. On aime bien citer les belles promesses de Jésus-Christ, mais il y a des promesses qui sont très sévères aussi, à l'encontre de ceux qui ne marchent pas dans ses voies. Ça, c'est important aussi. Jésus-Christ ne tardera pas. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Et j'espère que c'est votre espérance de ne jamais connaître la mort et être enlevé vivant. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, qui suscite la foi, qui est l'auteur de notre foi, quoi, et qui nous porte à travers la foi que nous avons reçue de lui. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes frères et sœurs, si vous marchez comme Jésus a marché, vous ne serez pas épargnés des mêmes épreuves à travers... vous ne serez pas épargnés des épreuves qu'il a vécues. On s'est moqué de lui, on va se moquer de vous. C'était béni mercredi parce qu'à l'étude biblique... Bon, je ne peux pas nommer la personne, mais il y a quelqu'un qui a dit que dans sa famille, il y a une personne qui s'est convertie récemment. Et il est tellement zélé que certains membres de la famille le trouvent extrémiste, quoi. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Et moi, ma prière, c'est qu'il reste extrémiste, quoi. Qu'il reste. Ouais. Qu'il reste, quoi. Parce qu'il tranche au couteau ce qui n'est pas de Dieu, puis il tranche au couteau ce qui est de Dieu, quoi. Ouais. J'espère qu'il finira jamais par arriver au milieu et dire, ouais, mais Dieu me comprend, Dieu me connaît, il sait comment je suis fait, il connaît mes faiblesses. Ça, c'est une vie chrétienne pas victorieuse, c'est une vie chrétienne désastreuse, quoi. Un contre-témoignage, quoi. Quand je vois le zèle de ces nouveaux chrétiens, quoi, moi, ça me bénit, ça me rallume aussi, hein. Ça remonte la flamme, quoi. Ça remonte la flamme. Frères et sœurs, gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Le défi du malin, c'est de nous détourner nos yeux, quoi. Ouais. Et si on détourne nos yeux, notre regard sur Jésus-Christ, vous savez ce qui va arriver? C'est pourquoi on va commencer à se regarder les uns les autres. Et en commençant à se regarder les uns les autres, on va commencer à regarder les faiblesses chez les uns les autres. Et en regardant les faiblesses chez les uns les autres, on risque de se sentir supérieur à certaines personnes dans l'Église, ce qui n'est pas biblique. Et en se sentant supérieur aux autres, on va commencer à juger les uns les autres. Vous savez ce que ça fait? Ça commence à faire des clans. Et après, ça commence à faire des divisions dans l'Église. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Il aurait pu faire un nettoyage. Il aurait pu, la Bible nous dit qu'il aurait pu commander des légions d'anges de venir et le défendre. Il a préféré dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Que le Seigneur puisse nous bénir et qu'on puisse continuer à garder nos yeux fixés sur lui, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Amen.